On s'entend, je vous embrasse.
Le 6 janvier 2025, France Bleu devient, ici, plus que jamais, connecté à notre région. Ici Paris-Île-de-France, le nouveau nom de votre radio locale, J-15. France Bleu, il est 20h. Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Bleu. Vie d'artiste, Johan Guérin.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans Vie d'artiste. Une heure à la découverte des petites anecdotes qui font la grande histoire de la musique. Eux font voyager le flamenco depuis des décennies. C'est l'état d'esprit gitan qu'ils portent dans le monde entier. Des valeurs fortes, l'écoute, la tolérance qui sont véhiculées sans aucune frontière. Ce soir, Chico and the Gypsies sont à l'honneur dans Vie d'artiste. L'occasion de revenir sur leur carrière, leur plus grand tube, et de vous présenter leur nouveau disque qui reprend les chants sacrés de Noël. Une émission au grand cœur qui vous apporte sourire et soleil avec la musique gitane. Chico and the Gypsies à l'honneur ce soir dans Vie d'artiste. Chico est devenu le plus célèbre des gitans, alors qu'il ne l'est pas vraiment. Son père est marocain, sa mère algérienne. Chico a un surnom affectueux qu'il a toujours gardé depuis son enfance. Mais quelle est son origine? Au cœur de la ville d'Arles, il aimait traîner avec les grands. Quand ses amis espagnols le cherchaient, ils l'appelaient tous Chico, ce qui signifie « petit garçon ». C'est sur cette terre de Camargue qu'il va s'accomplir et qu'il fait la connaissance de la famille Reyes, avec laquelle il se lie d'amitié. Une famille gitane et musicienne qui a le rythme dans la peau et la virtuosité de la guitare dans les doigts depuis la naissance. Chico va alors côtoyer de grands noms tels que José Reyes ou encore Manitas de Plata. Il monte en 77 son premier groupe, Los Reyes, qui publie un premier album intitulé « Gitan Poète ». Chico s'impose progressivement comme le leader. Le groupe change alors de nom et devient les Gypsy Kings et sort en 1982 Alegría, le premier album. Un groupe qui apporte du sourire, de la joie, de la vie. Mais un groupe qui va malgré tout connaître un départ. La raison, Chico demande des comptes aux producteurs des Gypsy Kings. L'argent théoriquement gagné lors des concerts ne correspond pas aux chiffres mentionnés dans les bilans par le producteur. Ce dernier décide de diviser le groupe pour mieux régner. Cette prise de position vaut à Chico d'être rejeté. Mais il ne baisse pas les bras, convaincu que l'aventure musicale doit coûte que coûte continuer. Il se plaît à dire qu'après la séparation, eux ont gardé le nom et lui a gardé l'âme. Et avec tout ça, il a reconstruit. C'est un bâtisseur qui reprend les rênes de sa vie. Il lance en 1992 Chico and the Gypsies, devenu le concurrent numéro 1 du groupe originel. Un an plus tard, les musiciens sortent l'album Nomade, qui est une véritable révélation pour le grand public. La musique gitane arrive dans toutes les oreilles, et parmi les titres qui vont marquer les générations encore aujourd'hui, se trouve Joby Joba. Une chanson d'amour imprégnée d'un sentiment de nostalgie et de dévotion. Bien que les paroles soient principalement en espagnol, il y a quelques phrases et mots en romani, la langue du peuple rom. Joby Joba, qui signifie « je vis, je vais », c'est le titre qu'on écoute en version intégrale dans Vie d'artiste. L'un des premiers succès des Gypsy Kings, repris ensuite par la formation Chico and the Gypsies, c'était Joby Joba, ici sur France Bleu.
Vie d'artiste, Johan Guérin.
Chico qui a su manier les codes de la culture gitane très tôt, une culture qu'il a fait sienne. Chico, un guitariste hors pair, mais comment a-t-il appris à manier cet instrument si fédérateur? Il s'est confié dans l'émission C'est à vous sur France 5 le 21 octobre dernier. C'est l'instant archive.
C'est un copain gitan qui m'a appris à jouer sur un carton qu'on ouvre et puis il y a des rainures comme ça. Et il m'a montré un petit peu la rythmique et puis j'ai commencé comme ça sur un carton, mais c'était un carton de luxe.
Hein. Ah bah oui. C'est avec les frères Reyes que vous fondez votre premier groupe de musique. Vous jouez dans un bar de Saint-Tropez. Votre destinée, elle s'y est jouée vraiment au nuage dans le ciel.
Ouais, on est arrivé à Saint-Tropez avec les rêves de rencontrer les stars. Et puis finalement, on est tombé en panne d'essence. On s'est dit, on va aller dans un restaurant pour pouvoir repartir en Arles. Et on a été sur la plage de Tahiti. Et le patron, qui nous a peu regardé de haut en bas, il nous a dit, bon, il faisait pas beau, il a vu les nuages, il a dit, mais écoutez, jouer, ça amènera peut-être un peu plus de soleil. Ça s'est joué à ça.
C'est incroyable. Dingue. Brigitte Bardot vous y a repéré. Mais avant elle, c'est Enrico Macias qui vous offre votre première chance. 3 semaines à l'Olympia en première partie et une toute première émission de télévision. Numéro 1 des Carpentiers, dont il était l'invité en octobre 1977.
On est le flamenco que los reyes. Mi hermano,
hola,
de la playa de Saint-Tropez.
Enrico a changé votre vie, mais ce qu'on apprend dans le livre, c'est que vous auriez pu ne jamais faire ses premières parties à l'Olympia. Encore une histoire de panne de voiture. Cette fois, c'est votre R16 qui a rendu l'âme sur l'autoroute.
Incroyable, on partait pour un mois à Paris, on est resté 3 semaines à l'Olympia, de la plage à l'Olympia. On y croyait, on y était, et puis finalement, mais ce qui s'est passé, c'est que je dis à Nicolas, je dis, j'avais une cassette de Charles Aznavour, et qui chantait, je ne me rappelle plus la chanson, mais...
Tu te laisses aller.
Ah oui. Et juste quand le refrain arrive, je dis à Nicolas, écoute, c'est magnifique. Je mets la cassette et Charles dit, tu te laisses aller. À ce moment-là, le moteur tombe par terre. Et finalement, c'est le moteur par terre qui nous a arrêtés. Mais c'est vrai, ça aurait pu être dramatique. Sur l'autoroute, en troisième position. Et finalement, on a laissé la voiture, on est parti en train. Et on a continué notre voyage. Et ça a été vraiment fantastique parce que le déclic, on l'a eu à l'Olympia avec Enrico Macias.
Enrico Macias qui a aidé Chico et ses amis à Gypsies. Il y a parfois, c'est vrai, des étoiles qui se mettent sur votre chemin. C'est le cas ici. Et que de chemin parcouru depuis cette scène de l'Olympia. Des concerts dans le monde entier et des tubes qui résonnent encore aujourd'hui. C'est le cas de la chanson El Verano qu'on écoute maintenant. Chico and the Gypsies, avec vous jusqu'à 21h sur France Bleu.
Chiquitita, tengo que hablarte. Pasan los días y tú vives dentro de mí. Desde que me acariciaste de tu mirada, cuando despertaste, ese viento del destino. Era mal en la vida, no tenía amigos. Y se acababa el verano. Tú me has hecho ojos rebeldes, ojos de fuego. Como en un sueño.
ibas bailando con las estrellas. Y tu cuerpo de serpiente se movía entre mis manos. Ay, como yo te quería.
No se acababa el verano.
Aquí te voy a regalar el recuerdo chiquita del verano.
No se acababa el verano.
Cuando la noche llega, China, el recuerdo chiquita yo te quiero.
No se acababa el verano.
Cuando la noche chiquita llega, cuando le recuerdo.
La chanson El Verano avec Chico and the Gypsies, ici sur France Bleu.
La vie d'artiste de Chico and the Gypsies.
Une femme a eu un véritable impact dans la carrière de Chico. Une artiste déterminante. Il s'agit de Brigitte Bardot. Los Reyes, la première formation de Chico, va intéresser l'actrice. Chico et ses acolytes, alors en quête de gloire, s'installent à Saint-Tropez et y font la manche dans la rue. Brigitte Bardot les repère en 78 et les invite à une soirée, mais pas n'importe laquelle. Le groupe est invité à animer l'anniversaire de Brigitte Bardot et pose ainsi les premières pierres de sa notoriété. C'est à cette période que Chico décide de faire évoluer Los Reyes. Les Gypsy Kings sont nés, et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une véritable Gypsy Mania qui accompagne les Français dans leurs déplacements. Les plus grandes stars internationales, de George Michael à Eric Clapton en passant par Bruce Springsteen, mettent en avant leur musique. Parmi les titres qui vont devenir des tubes, on retrouve Bamboleo. C'est un hymne à la fête qui est d'ailleurs né à Saint-Tropez. Chico s'en souvient et en parle avec ses mots. À l'époque, avec Nicolas, le chanteur, et Tonino, le guitariste, nous nous amusions à improviser dans les soirées privées. On était toujours à la recherche de nouveaux rythmes. Parfois, on se loupait sur quelques accords, puis en quelques secondes, tout le monde dansait debout sur les tables. C'est ce qui est arrivé avec Bamboleo. C'était très spontané, ça a pris tout de suite. Un titre d'ailleurs repris d'un medley de Caballo Viejo.
De l'amour llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece.
Ce classique du Venezuela va inspirer les musiciens, tout comme le refrain de Bamboleo de la brésilienne Carmen Miranda.
Bamboleo, bambolea, a ti te levo cantando pra não chorar.
En quelques mois, tout le monde se bat pour avoir les Gypsy Kings. La chanson Bamboleo devient très vite incontournable. Après l'avoir chanté sur scène, c'est en studio que les musiciens l'affinent et retravaillent les paroles. Dernière anecdote, quand elle le pouvait, Brigitte Bardot mettait une robe et une perruque et venait assister au concert des Gypsy Kings, ni vu ni connu. Une belle amitié en tout cas qui s'est tissée avec notamment Chico. On vous met dans l'ambiance festive avec ce titre Bamboléo qu'on écoute maintenant en version intégrale d'Envie d'artiste.
No tiene la culpa. Camacho le dan sabana porque es muy despreciado. Por eso yo te tengo que llorar. Ese amor llega sin esa manera. No tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor en el pasado. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí, vivía así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí, vivía así. No te cuente el abandono. Es imposible, no te encuentro de verdad. Pero si un día te encuentro sin de nada, lo mismo va a caer, lo mismo soy yo. No te cuente el abandono. Es imposible, no te encuentro de verdad. Pero si un día te encuentro sin de nada, lo mismo va a caer.
Ça fait partie des titres qui mettent toujours l'ambiance et qu'on prend plaisir à réécouter. Bamboléo avec Chico and the Gypsies sur France Bleu.
Vie d'artiste, Johan Guérin.
L'histoire de Chico est intéressante, le petit gars d'Afrique du Nord né en Arles qui intègre la grande famille gitane. Chico s'est d'ailleurs confié au micro de France Inter sur le lien entretenu avec ses parents et quelques souvenirs qu'il évoque dans son livre « Sous les étoiles gitanes » paru chez Robert Laffont. Ses parents ne voulaient surtout pas attirer l'attention, autant dire qu'avec Chico, c'est raté. Place à l'instant archive.
J'étais vraiment le petit canard, le mauvais petit canard, mais en même temps, quelle vie, on était entouré d'amour, on était entouré de plein de belles choses, d'émotions fantastiques.
Mmh. Et quand votre père achète une paire de charentaises à tous les enfants, c'est pas pour que vous ayez chaud aux pieds, c'est pas par volonté d'assimilation non plus, c'est pourquoi ?
C'est pour pas déranger les voisins, mais en même temps c'était notre première paire de pantoufles, vous imaginez comment on était contents.
Ouais, c'est ça, mon père était si respectueux. Dieu que lorsqu'il a appris que le voisin du dessous était souffrant, il nous a acheté à tous des charentaises pour qu'on fasse moins de bruit.
Non mais incroyable, c'est vrai qu'ils étaient comme ça mes parents, ils étaient dans le respect total de l'autre, vraiment, ouais. C'était une grande humilité, c'était que de l'amour, chez nous et à l'extérieur.
Alors, un jour, vous poussez la porte d'une caravane, et c'est les voisins. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en poussant la porte de cette caravane et en vous faisant un peu adopter par une famille gitane,
J'ai rien été chercher, j'ai vécu ma vie. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Nicolas Reyes, qui était un petit gitan d'Arles, de la famille Reyes. Le papa était le chanteur de Manitas de Plata, je l'ai su qu'après. Et un jour, il m'invite à déjeuner chez lui, et là, je rentre dans un univers, et j'en suis plus sorti. C'était magnifique. Pour rien, il sortait les guitares. Enfin, il y avait que de la joie, de l'amour, c'était que des belles vibrations. Mmh.
Mais alors, donc vous venez d'un milieu où on est discret, où on dit qu'il faut rester discret, etc. On ne fait pas de bruit, on met des charentaises. Et puis, vous allez chercher, les gitans font un peu de bruit quand même, ça chante, ça danse, c'est ça aussi qui vous a attiré?
Oui, mais ce n'était pas du bruit, c'était que des belles choses. Vous imaginez de la musique, être entouré de musique du matin au soir, alors que c'était une famille modeste, ils étaient 11 enfants. Vous imaginez, et tous les frères chantaient. Enfin, c'était, pour moi, je suis rentré dans un univers, mais quelque chose qui m'a marqué et dont je ne suis jamais sorti, quoi. Oui. Du coup, j'ai même épousé Marthe, avec qui j'ai eu 4 enfants. Aujourd'hui, nous avons 11 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles. Et il y a beaucoup de musiciens,
de chanteurs. Vous avez grand remplacé les gitans.
Non, mais c'est ça. C'est ça, mais c'est magnifique, quoi. Aujourd'hui, on est encore entouré de musique et je suis très, très fier de ça.
Et à quel moment, vous vous êtes senti intégré à cette famille? Est-ce que complètement intégré, je dirais?
Mais je me suis jamais senti intégré. Je faisais partie de cet univers. L'intégration, vous savez, il y a que quelques temps qu'on en parle. Mais avant, on était là, on était des enfants. On grandissait dans un univers amical, fraternel. C'était que des belles choses comme ça. L'intégration, moi, il y a quelques années que j'en entends parler. Ouais. Mais sinon, nous, on vivait notre vie. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas de barrière entre les uns et les autres, quoi. Ouais. Et puis Arles, c'est une ville un peu cosmopolite. Il y avait pleine de communautés, mais sans barrières.
Chico au micro de Charline Vanhoenacker sur France Inter. Et c'est vrai qu'il y a une certaine sensibilité qui se dégage des mots de Chico. Cette sensibilité, il va l'utiliser et la mettre en musique. C'est le cas avec cette reprise du titre Alléluia, qui figure sur le nouvel album de Chico and the Gypsies, Les Chants Sacrés de Noël. On l'écoute maintenant dans Vie d'Artiste.
Un soldado a casa regresó. Un niño enfermo ya se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya. Aleluya.
Aleluya.
Alléluia, le titre de Leonard Cohen, popularisé par Jeff Buckley et aujourd'hui interprété avec la douceur de Chico and the Gypsies. À l'honneur ce soir dans Vie d'artiste, on continue le voyage jusqu'à 21h sur France Bleu.
Toute la musique que vous aimez est maintenant disponible partout et tout le temps sur la nouvelle radio musicale en ligne de France Bleu, 100% chansons françaises. Découvrez 100% chansons françaises à tout moment sur francebleu.fr, sur l'application ICI, ICI et sur l'application Radio France.
Vie d'artiste, Johan Guérin.
Quel plaisir de vous accompagner dans Vie d'artiste. On vous raconte les plus grands souvenirs de carrière de Chico and the Gypsies, les anecdotes de vie, les coulisses de leur plus grand tube. Vous allez tout savoir ce dimanche. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, on vous plonge également dans les plus beaux chants sacrés de Noël, repris par Chico et ses amis musiciens. Un voyage qui continue tout de suite sur France Bleu. Les Gypsy Kings sont les premiers Français à décrocher un disque d'or aux États-Unis. En tout, c'est 25 millions d'albums vendus et 31 disques d'or. Mais revenons à l'histoire plus tard.
Le PSG en direct, la Coupe de France, l'avant-match sur France Bleu Paris. Christopher Faleras.
Bonsoir à tous et bienvenue sur France Bleu Paris. Ce soir, c'est soirée Coupe de France sur France Bleu. Avec le Paris Saint-Germain qui fait son entrée en lice face au RC Lens ce soir. C'est le dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Lens PSG, c'est au Stade Bollard et c'est Romain Bédou qui va nous faire vivre ce match en intégralité. Salut Romain.
Salut Christopher, salut à tous, bienvenue au Stade Bollard à Lens. On est là pour la dernière de l'année 2024 pour le Paris Saint-Germain, ce 32e de finale de Coupe de France face au Racing Club de Lens. Le Stade Bollard qui est chaud bouillant, qui sera plein aujourd'hui. Vous les entendez siffler, c'est parce qu'à l'instant, les joueurs du Paris Saint-Germain entrent sur le terrain pour l'échauffement. On peut peut-être commencer, Christopher, par les compositions d'équipe.
Ah bah oui,
peut-être
pour
ce match, alors, cette dernière de l'année. Alors, on commence par les Lensois, parce qu'ils nous accueillent quand même, ils sont gentils, et puis ils sont sympas les Lensois, franchement, on passe des bons moments à chaque fois qu'on y va. Donc, dans les buts pour le RC Lens, Hervé Kofi, le Burkinabé, l'international français Brice Samba est absent, il est blessé, Brice Samba, donc c'est Hervé Kofi qui sera dans les buts. Une défense à 3, avec Kousanov, Lousbek, qui est intéressant parce que le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé par ce joueur, et ça pourrait être une des recrues du mercato d'hiver, donc on le regardera attentivement. Il sera associé à Danso et Medina. On aura deux pistons, Frankowski le polonais et Machado le colombien. Deux milieux de terrain, Adrien Thomasson, Andy Diouf. Et puis ensuite deux offensifs, Fulgini, El Ainaoui devant le numéro 9, Mbala Zola. Ça c'est pour le RC Lens. On va passer au Paris Saint-Germain maintenant. Vous savez la surprise ? Eh ben, il n'y a pas de surprise. Et ben voilà, pas de surprise dans la compo de Luis Enrique aujourd'hui. Matvei Safonov est dans les buts parce que Donnarumma, ben, il s'est fait arracher le visage il y a 3 jours contre Monaco. Et donc il est absent, il n'est pas là, il n'est même pas sur la feuille de match, il n'a pas fait le déplacement, Gianluigi Donnarumma. On a derrière Achraf Hakimi qui est titulaire à droite, Nuno Mendes qui est titulaire à gauche. La charnière centrale, c'est la charnière titulaire, celle entre Marquinhos et Willian Pacho. Un milieu à 3, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery est sur le banc. Et enfin devant, on a un trio, Kangin Lee, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, pas de Bradley Barcola, pas de Gonçalo Ramos, c'est la même attaque qu'il y avait il y a une semaine tout pile face à Lyon en Ligue 1, donc pas vraiment de surprise, pas vraiment de turnover pour Luis Enrique. C'est le dernier match de l'année, la Coupe de France est un objectif et ça se voit dans sa composition d'équipe.
Et ce match de 32e de finale est particulier, Romain, ce Lens PSG, parce qu'il oppose deux clubs de Ligue 1, dont le tenant du titre Paris, ce qui est plutôt rare, ce stade de la compétition en plus.
Bah, c'est vrai que c'est assez rare. Normalement, on a l'habitude des tours qu'on appelle un petit peu exotiques. On doit se balader un peu dans des coins de France qui ne sont pas habitués à recevoir des équipes comme celle du Paris Saint-Germain. Alors, spoiler, ça sera peut-être pour le tour d'après, pour les 16e de finale, parce que le tirage au sort vient d'avoir lieu et le gagnant du match entre Lens et le Paris Saint-Germain affrontera le club du FC Espaly Saint-Marcel. Est-ce que vous savez où c'est ?
Oh, pas du tout. Par contre, ça sent le petit poussé, hein.
Ouais, c'est une équipe de N3, c'est la 5e division et donc c'est dans la région du Puy-en-Velay. Voilà, donc c'est plein centre dans la Haute-Loire. Et donc ça sera voilà pour le prochain tour. Mais effectivement, c'est assez rare d'avoir deux clubs de Ligue 1 qui s'affrontent dès les 32e de finale. Il y a 64 équipes, il y a 18 clubs de Ligue 1, donc les probas elles sont pas énormes. Et donc là ce soir c'est un gros morceau, c'est Bollard, donc c'est une grosse ambiance. Et c'est le RC Lens qui n'a pas été européen parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue Ligue Europa Conférence, mais qui était en tout cas 7e de Ligue 1 l'an dernier.
Oui, et le FC Lens qui en championnat, certes est 7e de Ligue 1, mais enchaîne plusieurs matchs avec des résultats tout à fait satisfaisants, tout comme le Paris Saint-Germain également, qui reste invaincu avec de belles performances dernièrement face à Monaco il y a quelques jours. La Coupe de France, c'est un objectif naturellement pour le Paris Saint-Germain, hein.
Bah bien sûr, mais toutes les compétitions sont des objectifs pour le PSG, mais encore plus la Coupe de France. La Coupe de France, c'est un peu spécial pour le Paris Saint-Germain, parce que la Coupe de France, c'est le trophée qui nous réussissait même avant que les Qataris rachètent le PSG. C'est-à-dire qu'on a 15 trophées en Coupe de France, on est bien entendu le club qui l'a le plus gagné. Ben ouais, c'est le record, mais on en avait déjà 7 avant 2011, avant que les Qataris ne rachètent le Paris Saint-Germain. Ça a toujours été un trophée qui a amené un peu de bonheur aux supporters du PSG. Ça a parfois sauvé des saisons. Je pense à l'année 2006 par exemple, où on gagne la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille au Stade de France. On avait fait une saison qui était assez chaotique en championnat, et la Coupe de France avait véritablement sauvé la saison, parce que ça nous avait permis d'être qualifiés pour la Coupe d'Europe et en plus de battre l'OM en finale. Donc c'est quand même plutôt cool. Et puis même historiquement, les deux premiers trophées majeurs du Paris Saint-Germain, ce sont deux Coupes de France en 1982 et en 1983. Alors il y avait eu un titre de champion en Ligue 2, mais vraiment en vrais trophées nationaux, bah, la Coupe de France a toujours été spéciale, et ça l'est toujours, parce que bah, voilà, y a une... l'année dernière on l'a remporté, mais ça faisait deux années de suite on se faisait sortir en 8e de finale, donc c'était un peu bizarre. Mais voilà, on aime la Coupe de France, le PSG aime la Coupe de France, et la Coupe de France aime le PSG.
Bon, et Lens est très motivé, hein. Lens qui n'a jamais remporté la Coupe de France va certainement être plutôt, on va dire, en forme, va vouloir un petit peu bousculer cet effectif parisien. D'ailleurs, on vous attend au standard 01 42 30 10 10 pour vos avis, vos commentaires sur la compo du match que l'on vous fait vivre ce soir à partir de 21h en intégralité sur France Bleu Paris. Appelez-nous maintenant. Romain, parlons un petit peu de la forme de l'effectif parisien. Comment sentez-vous là actuellement? Là, c'est l'échauffement. Vous les voyez comment? Vous les sentez comment, les joueurs du Paris Saint-Germain?
Plutôt tranquille, c'est un échauffement. Vous savez, le Paris Saint-Germain, il s'échauffe jamais très très longtemps. Hein. C'est voilà, là ils sont rentrés sur le terrain pile quand on a pris l'antenne, donc à 20h30, c'est seulement 30 minutes avant le coup d'envoi, donc c'est assez tard, mine de rien. L'échauffement, c'est toujours quelque chose d'assez simple côté Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est vrai que cette équipe-là, elle va beaucoup mieux qu'il y a 10 jours. Si vous m'aviez posé la question il y a 10 jours, comment va le Paris Saint-Germain, c'était avant le match face à Salzbourg, où là on restait sur deux matchs nuls de suite contre Toulouse et contre Auxerre là-bas, 1-0-0. Mais depuis, tout va mieux. Il y a eu trois matchs qui ont été hyper convaincants. Celui à Salzbourg en Ligue des Champions, qui était face à une équipe certes plus faible, mais hyper important pour la qualification en 16e de finale.
Et qui a vu exploser Désiré Doué.
Ah ben bien sûr, et c'est exactement le match charnière pour Désiré Doué, qui a fait une passe décisive et une super rentrée à Salzbourg. Il y a eu ensuite ce test face à l'Olympique Lyonnais qui était à l'époque l'équipe française la plus en forme, que ça soit en championnat ou en Europe, et là on a eu effectivement encore un grand Désiré Doué. Et puis il y a eu ce match face à Monaco mercredi, cette victoire 4-2, une victoire maîtrisée. On a eu l'impression véritablement d'un PSG qui maîtrise son sujet, qui est toujours au rendez-vous vous quand il doit jouer face à des gros clubs de Ligue 1. Lens est un gros club de Ligue 1 sur les dernières, les dernières saisons. D'ailleurs, quand on les a joués au Parc des Princes cette année, on a gagné 1-0. Il va falloir être aussi sérieux
évident,
ce soir.
Effectivement.
Ouais, c'était pas facile.
Jérôme, qui est avec toi en direct, au standard. Salut Jérôme. Allô, Jérôme? Jérôme qui nous appelle depuis Aix-en-Provence.
Ah, très belle ville, Aix-en-Provence.
Bon, on a des supporters du Parisien, mais on a un petit souci, en tout cas, avec le standard. C'est pas grave, appelez-nous, vos commentaires. Alors, un autre Jérôme, on a plein de Jérôme ce soir. Allô, Jérôme? Eh ben non plus.
Oui.
Non. Ah, ça y est, enfin.
Oui, oui.
20h38, à la bonne heure. Jérôme, tu nous appelles d'où?
De Polynésie, de Tahiti.
Alors, de Tahiti. Bien joué.
Tahiti, trop cool.
Il est quelle heure là?
Là, il est 9h30, presque 10h moins le quart.
Eh ben super, parfait pour suivre le match Lens Paris Saint-Germain. 32e de finale de la Coupe du Monde, de la Coupe de France. Ton avis sur la composition, ça donne quoi?
C'est comme d'habitude. Hein. Moi, j'aurais aimé voir Ramos débuter. Ouais. Mais bon, s'il rentre et qu'il nous claque encore un but, tout va bien. Mais j'aurais aimé le voir débuter quand même.
Et sinon, sur les joueurs qui sont présents, Jérôme, ça t'enthousiasme
ou pas? Pour moi, c'est... Ouais. Bah, on a Désiré Doué qui est en grande forme.
Qui est en pleine confiance. Hein.
Voilà, on a Vitinha qui fait des gros matchs. C'est... moi non, c'est l'équipe qui a joué quasiment l'équipe qui a joué à Monaco, donc voilà, et puis ils sont en pleine confiance en ce moment, donc pour moi ça me va.
Bon, en tout cas ça va pour Jérôme, et Romain, on peut le dire, c'est peut-être le bon effectif que Luis Enrique a choisi pour le match ce soir. Hein.
Oui, c'est de la continuité, effectivement, c'est essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cassure, même après la trêve, que tout soit une forme de continuité, alors qu'actuellement, il y a l'échauffement. Pendant l'échauffement, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir véritablement quels vont être les postes, notamment des offensifs. Et on voit que, visiblement, dans le trio offensif, Dembélé va être beaucoup plus axial, Kanginli va être sur le côté droit et Désiré Doué sur le côté gauche. Mais oui, effectivement, pour revenir à la compo départ, moi aussi j'aurais peut-être voulu voir un Gonçalo Ramos. C'est un peu spécial parce que Gonçalo Ramos, ça fait maintenant 3 matchs de suite qu'il ne va pas être titulaire. Il n'a pas été titulaire contre Lyon ni contre Monaco, et donc là non plus contre Lens. Bien sûr, j'aurais peut-être voulu le voir, mais c'est priorité à ceux qui sont performants. Dembélé est performant là depuis une semaine, il a marqué plusieurs fois. Désiré Doué est en feu. Kanginli peut amener un petit peu de polyvalence, et il peut rentrer aussi dans l'axe pour être un genre de quatrième milieu de terrain. Donc c'est des choix qui peuvent se comprendre. La surprise, c'est véritablement qu'il n'y ait pas de turnover pour ce match-là, et que voilà, on fait comme si c'était un match de championnat avec un enjeu.
Mais parce que c'est un enjeu essentiel pour le Paris Saint-Germain, et c'est vrai que pour ce dernier match de l'année 2024, il ne faut pas relâcher la pression. Il faut conserver effectivement cet effectif qui est en forme, qui marche plutôt bien, et c'est vrai qu'il y a toujours des interrogations. D'ailleurs, durant toute la semaine, il y a eu plein d'interrogations autour de Barcola. Conférence de presse hier, justement, Romain, le coach Luis Enrique a réagi concernant Barcola. On va l'écouter parce qu'effectivement, y a tout un débat autour de Barcola actuellement. On l'écoute, Luis Enrique.
On a eu un calendrier très très chargé. Voilà, il nous reste encore un match pour décider ce que l'on va faire durant cette période. Et ça dépend bien évidemment des joueurs et de leurs besoins.
Alors ça, c'était Luis Enrique qui s'exprimait sur le programme, certainement pendant les vacances. Effectivement, en revanche, il a bel et bien donné son avis sur Barcola. On l'écoute, Luis Enrique, c'était hier lors de la conférence de presse d'avant-match.
Moi, je suis très content avec Barcola. Il a fait, pour vous, il a fait 10 journées exceptionnelles, comme si c'était Maradona. Et maintenant, soudain, vous ne l'aimez pas. Ça ne marche pas comme ça pour nous. Moi, je suis très content avec sa prestation depuis le début de l'année. Et moi, ce que je recherche, c'est qu'il continue à s'améliorer. Mais dans une saison, tous les joueurs peuvent monter et descendre quant à leur performance. Le but, c'est d'arriver à accomplir les objectifs de l'équipe. S'ils marquent plus ou moins, bien sûr, ça va dépendre de la période dans laquelle nous nous trouvons.
Voilà, c'est ce qu'on disait en fait, Romain. C'est que même si des joueurs ne débutent pas le match ce soir, la confiance est là, en tout cas, du côté de Luis Enrique.
Oui, finalement, il y a énormément de cohérence dans le discours de Luis Enrique. C'est presque nous, les observateurs, qui manquons de cohérence. Parce que quand Barcola fait un début de saison de feu, effectivement, on se dit « Ah bah tiens, ça y est, c'est celui qui va remplacer Mbappé, il va mettre tous les buts, il est meilleur buteur de Ligue 1, il en a déjà mis 10, etc. » Et puis, Luis Enrique était plutôt dans un discours de dire « Mais non, mais moi, je veux pas avoir un seul joueur qui est au-dessus des autres. Je veux avoir pléthore de solutions pour pouvoir marquer. » Et il y a eu cette expression, notamment en début de saison, où il avait dit plutôt que d'avoir un joueur à 40 buts, je préfère avoir 4 joueurs à 12 buts pour qu'il y ait une pluralité de buteurs, et en plus ça fait plus de buts.
Et la saison sera encore longue. Hein,
donc et la saison sera encore longue, et surtout ses attitudes le prouvent. C'est-à-dire que si Barcola était performant, on ne le montait pas plus haut qu'il ne l'était, et quand il est un peu moins performant, on ne s'alarme pas non plus. Et puis c'est pas forcément si grave pour le reste du collectif, parce qu'il y a d'autres solutions. En ce moment, effectivement, il y a Dembélé qui est un peu plus réaliste. Il y a Désiré Doué qui est depuis 3 matchs et très très bon. Et puis il y a y a des joueurs qui peuvent marquer comme ça. Kanguilli, il a déjà mis 6 buts depuis le début de la saison. Gonçalo Ramos, dans un rôle de joker, il arrive à toujours se montrer décisif, à marquer presque à chaque fois. Donc voilà, il y a toujours une solution pour pouvoir scorer, pour pouvoir marquer. C'est voilà, en dehors du sujet Barcola, c'est vraiment l'idée que l'attaque du Paris Saint-Germain soit toujours prolifique, peu importe qui soit le joueur qui marque.
20h44 pratiquement, Lens Paris Saint-Germain, 32e de finale de la Coupe de France. Match à suivre en intégralité en direct à partir de 21h. Et puis on attend bien sûr vos avis, vos commentaires concernant la composition. 01 42 30 10 10. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir les amis, comment ça va?
Bah, en pleine forme Jérôme, un petit Salut, quart d'heure du début du match. Ton avis sur la composition Jérôme?
Alors mon avis sur la composition, on est sur une composition quasiment d'équipe type, hein, donc la défense c'est la défense type, le milieu à peu de choses près, il manque Warren mais c'est pas grave, et devant on met les plus performants du moment, c'est-à-dire que Désiré Doué, il a fait 3 super matchs, c'est normal que l'entraîneur le mette. Dembélé, il a fait 2 bons matchs qui viennent de se passer, c'est normal que l'entraîneur le mette. Ça s'appelle de la gestion d'effectifs. Il met les plus performants et d'ailleurs on s'aperçoit que sur cette composition, il a envie d'aller gagner ce match-là, il a envie d'aller gagner la Coupe de France. Luis Enrique avec son staff et son équipe veut gagner tous les matchs.
Bah oui, non mais c'est exactement ce qu'on disait Romain, c'est Luis Enrique, il trace sa route, il reste concentré et au final il écoute pas beaucoup les critiques. Hein.
Alors il les écoute sans les écouter.
C'est ça.
C'est-à-dire que quand il est un peu en difficulté, etc., il fait comme s'il n'écoutait pas la presse. Et puis dès qu'il est un petit peu mieux, il va ressortir les petites phrases, il va nous ressortir les petits trucs pour dire ah vous voyez, vous aviez dit ça, puis en fait vous êtes trompé. Et donc c'est le jeu, c'est comme ça, c'est sa personnalité. C'est aussi la manière dont il a de prendre la pression, toute la pression qu'il peut y avoir sur les joueurs du Paris Saint-Germain, et prise cette pression par Luis Enrique pour aussi les délester un petit peu de ce poids. Et ça marche, et notamment, je le répète, notamment dans les grandes affiches de Ligue 1, ça marche pour le Paris Saint-Germain qui a une attitude dans les chocs pour le moment irréprochable depuis le début de la saison. Il y a eu des résultats positifs, une victoire par 2 buts d'écart à Lille, victoire par 2 buts d'écart face à Monaco, face à Lyon dernièrement, à Marseille la victoire 3-0, on s'en rappelle, avec à chaque fois des débuts de match qui sont hyper performants, une équipe qui est véritablement concentrée pour asphyxier son adversaire dès le début de la rencontre. Et donc bah, pour le moment ça marche, donc oui effectivement on peut pas lui donner tort. Après il va falloir voir si ça marche en Ligue des Champions et notamment sur la suite de la saison. Il y a ce rendez-vous de janvier face à Manchester City, mais on n'y est pas encore.
Oui.
Pour le moment en Ligue 1 tout va bien, et on l'espère en Coupe de France que ça ira aussi.
Bah oui, et on va suivre tout ça ensemble, tous ensemble sur France Bleu Paris. 01 42 30 10 10, vos commentaires concernant la composition et puis concernant également l'enjeu de la Coupe de France. Détenteur bien sûr du record de Coupe de France, nous en avons 15, on espère bien sûr en avoir une 16e l'année prochaine. Et donc dites-nous un petit peu ce que vous en pensez aussi de ce parcours du Paris Saint-Germain en Coupe de France. On en parle ensemble avant match jusqu'à 21h, et puis à partir de 21h le match en intégralité avec Romain Bidou qui est sur place au Stade Bollaert pour Lens Paris Saint-Germain sur France Bleu Paris.
Vous entendez ? Ici, c'est déjà Noël sur France Bleu. Toute la journée, écoutez votre radio locale France Bleu Paris et gagnez chaque semaine tous les cadeaux de la haute France Bleu. Cette semaine, vous gagnez un smartphone, une montre connectée, une séance bien-être pour deux, un vidéoprojecteur. Venez, ici, c'est déjà Noël sur France Bleu Paris.
La Coupe de France sur France Bleu. Le PSG en direct.
Et à 8h47 sur France Bleu Paris, l'infotrafic ici en temps réel tous les quarts d'heure avec 18 km de bouchons sur l'île de France actuellement, quelques petites pannes, rien de méchant, un véhicule notamment sur la RN118 à hauteur du pont de Sèvres en direction Meudon, et puis un autre véhicule en panne au sud de Paris sur la 86 à hauteur de Rungis. Vous avez un véhicule sur la voie de droite sur la 86 extérieure, soyez prudents et bonne route à tous avec nous sur France Bleu Paris.
Le PSG en direct, la Coupe de France, l'avant-match sur France Bleu Paris. Christopher Faleras.
8h48, le match à partir de 21h à suivre en direct sur France Bleu Paris. Lens Paris Saint-Germain, 32e de finale de la Coupe de France. C'est le dernier match de ces 32e de finale. Romain Bédouc est au Stade Bollaert. Il y a une belle ambiance, hein, Romain, ce soir.
Mais comme toujours au Stade Bollaert, et là en plus on va avoir bientôt le speaker qui va donner la composition d'équipe des joueurs lensois. Alors chez nous à Paris c'est quelque chose d'assez classique avec le speaker qui va donner sa compo, mais à Lens c'est un supporter qui est ultra, qui descend à chaque fois et qui met une ambiance de feu pour donner le nom de ses joueurs. Donc voilà, c'est dans quelques instants, c'est un beau moment à vivre à chaque fois, mais globalement Lens, ouais, c'est spécial pour vous qui vont regarder, s'il y en a qui vont regarder la télé et qui vont mettre les commentaires de France Bleu Paris, vous allez en plus avoir des belles images parce que il y a la tribune qui est ce qu'on appelle la tribune latérale, celle qui est face aux caméras et pas qui est dans les virages, qui est une tribune d'ultra. Donc il y a énormément de drapeaux qui vont être agités tout au long du match. C'est toujours hyper agréable. Et puis oui, il y a une convivialité à Lens. Alors il y a aussi les supporters parisiens, moi je les vois là, ils sont dans mon petit coin gauche là comme ça. Il y a 1000 supporters parisiens qui seront là, dont 600 ultras du collectif Ultra Paris. Et puis le Stade Bollart, il sera complet. Guichet fermé aujourd'hui, 38 000 spectateurs à Geoffroy Guichard. Et voilà. Et ouais, le speaker qui va commencer à essayer de motiver tout le monde. Il y a tout le monde qui se met debout pour la compo du Racing Club de Lens. Mais oui, ça crie beaucoup.
Alors pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur France Bleu Paris, Romain, rappelez-nous la composition rapide du Paris Saint-Germain pour ce soir.
La compo du Paris Saint-Germain. Donc on a dans les buts Matvei Safonov qui remplace Gianluigi Donnarumma. On a Achraf Hakimi arrière droit, Nuno Mendes arrière gauche. La charnière c'est Marquinhos avec Julian Pacho. On a Vitinha au milieu de terrain avec João Neves et Fabian Ruiz. Kanginli sur le côté droit, Désiré Doué sur le côté gauche et Ousmane Dembélé qui jouera au poste de faux numéro 9. Ousmane Dembélé qui va jouer plus dans l'axe comme face à Lyon notamment la semaine dernière, comme face à Monaco. C'était mercredi. Voilà pour la composition du Paris Saint-Germain. Sur le banc, à noter qu'on a Lucas Hernandez, on a Bradley Barcola, on a Lucas Beraldo, on a Gonçalo Ramos, Warren Zaïre-Emery, Arnaud Tenas. Et côté jeune, on a Ibrahim Baye, Seni Mayulu, Yoram Zague qui ont fait le déplacement avec le groupe et qui sont aussi sur la feuille de match. Ils pourront potentiellement rentrer dans ce match.
Et on va prendre tout de suite Geoffroy qui est avec nous en direct au standard, 20h50, 01 42 30 10 10. Vos avis sur la composition. Bonsoir Geoffroy.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Bleu. On est à 10 minutes même pas du coup d'envoi de ce Lens Paris Saint-Germain. Que pensez-vous de la composition ce soir, Geoffroy?
Pour ce qui est le gardien, on s'en doutait hein, après le choc qu'a reçu Donnarumma. Après je trouve que derrière au milieu on peut pas faire beaucoup mieux. C'est toujours concernant l'animation offensive, à chaque fois qu'on est un peu surpris par Luis Enrique. Moi ça me va, je trouve que j'aime bien quand Dembélé est plutôt dans une position axiale. Je trouve qu'il est moins dangereux au niveau des pertes de balles. Et puis il y a moins besoin de le couvrir. Doué il est en pleine forme, donc il mérite d'être titulaire. Après moi c'est sur Kanginli que j'ai toujours un petit peu de mal. Je trouve que il marque des buts, mais dans la création du jeu, je sais pas, je le trouve un petit peu en dessous. Mais bon, après on a un beau banc derrière, et puis mais en tout cas c'est solide, je trouve, la base défensive et au milieu.
Oui, et puis surtout on est en Coupe de France, on sait quand est-ce qu'on commence le match, on sait pas très bien quand est-ce qu'il finira. Donc vaut mieux garder un petit peu de sang frais, Romain, sur le banc. Hein.
Alors oui, mais il n'y aura pas de prolongation. C'est comme ça depuis quelques années maintenant, depuis le Covid. S'il y a match nul sur cette rencontre, il y aura directement la séance de tir au but, les pénaltys et à noter aussi...
Qui peut s'éterniser, hein.
Ça peut s'éterniser aussi également, mais à noter qu'il n'y aura pas d'assistance à la vidéo pour l'arbitre, donc pas de VAR, parce que ça se met en place qu'à partir des quarts de finale. Comme il y a des stades en Coupe de France qui n'ont pas les moyens d'accueillir l'assistance vidéo, pour éviter qu'il y ait des disparités suivant les stades, il n'y a pas de vidéo jusqu'en quart de finale, et donc pas de vidéo aujourd'hui pour ce match entre Lens et Paris Saint-Germain, même si on a deux équipes de Ligue 1.
Alors on l'a pas évoqué encore pour l'instant, Romain, les matchs entre Lens et Paris en Coupe de France, globalement ça nous réussit plutôt bien.
Ouais, ça nous réussit même vraiment tout le temps, parce que j'ai fait une petite liste. On est sur 5 victoires de suite en coupe, que ce soit l'ancienne Coupe de la Ligue ou la Coupe de France. On est sur 5 victoires de suite face à Lens. La dernière fois qu'on a perdu face à Lens, c'était en 1994.
Oh là là.
On avait perdu au Parc des Princes. C'était un quart de finale. C'était Vincent Guérin qui avait marqué pour le Paris Saint-Germain. Il y avait eu 2-1 pour Lens. Mais sinon, le déplacement à Lens, il n'est pas facile, que ce soit en coupe ou que ce soit plutôt en championnat. En championnat, on a gagné certes en janvier dernier. Hein, c'était un des premiers matchs de l'année civile. On a gagné 2-0 ici. Mais sinon, ça faisait depuis 2014 qu'on n'avait pas gagné à Bollaert. Et si on peut avoir une petite stat aussi sur Bollaert, la dernière fois qu'on a perdu un 32e de finale dès notre entrée en lice en Coupe de France, c'était il y a très très longtemps.
J'étais pas né.
C'était en 1990. J'étais pas né. J'allais naître quelques mois après. Et ben c'est
moi
en 1990.
Déjà né, hein, par contre.
c'était contre Valenciennes, mais le match se jouait à Bollaert à l'époque. Donc la dernière fois qu'on a perdu en 32e de finale, c'était ici.
Voilà. Non, ça date, effectivement.
Bon, on va vaincre le signe indien.
Non, mais complètement, de toute façon. Geoffrey, qui est toujours avec nous à 20h54 dans 6 minutes, le coup d'envoi. Geoffrey, un petit souvenir de Coupe de France, de Paris, peut-être, que vous avez ?
Oh, y en a plein, hein, parce que c'est une grande histoire, le PSG et la Coupe de France. Moi, mon meilleur souvenir, c'est peut-être la victoire au final contre Marseille 2-1 avec la seule frappe de Dorasso qu'il a fait de loin
énorme
quand il était au PSG. Ouais, ouais. Franchement, ce match-là, je m'en souviens très bien, c'était 2006, je crois. C'est peut-être le plus beau souvenir parce qu'au coup d'envoi, on n'était pas serein, puis voilà, il y a une grosse rivalité contre Marseille. Mais non, c'est une belle histoire entre le PSG et la Coupe de France, et pourvu que ça continue.
Une très très belle histoire, j'ai envie de vous dire, hein. Une très très belle histoire. Club qui détient 15 Coupes de France, le record devant Marseille. Et c'est vrai que depuis très longtemps, la Coupe de France et le Paris Saint-Germain, d'ailleurs, c'est le premier titre que le Paris Saint-Germain avait remporté une petite dizaine d'années après sa création, hein. Première Coupe de France, hein.
1982, effectivement, on avait même fait le doublé 82 et 83. Donc voilà. Ouais, c'est une compétition qui nous
a quelque chose avec la Coupe de France.
Véritablement. Ouais, il y a un truc, mais c'est la compétition du peuple, voilà, et la capitale qui représente la compétition du peuple, c'est voilà, il y a quelque chose de logique là-dedans. Alors juste pour les éditeurs de France Bleu Paris qui nous écoutent et qui regardent aussi le match à la télé, je me permets, Christopher, je sais que vous avez l'habitude parfois de synchroniser les commentaires qu'on peut faire sur France Bleu Paris avec la vidéo, donc ne vous inquiétez pas, lors du coup d'envoi je ferai le petit top comme je le fais à chaque fois, comme Bruno Salomon le fait aussi tout le temps, pour que vous soyez parfaitement synchro entre l'image qui sera devant vous et le commentaire qu'on fera nous. Alors pour le moment les joueurs ils sont toujours pas rentrés sur le terrain, donc il y aura peut-être un tout petit peu de retard, ce sera peut-être pas 21h.
Ils sont encore dans le tunnel là. Ça va arriver. Voilà. 01 42 30 10 10, appelez-nous, on a encore 4 minutes devant nous avant le coup d'envoi à 21h pour ce Lens Paris Saint-Germain, dernier match des 32e de finale de la Coupe de France. Match à suivre en intégralité bien sûr sur France Bleu Paris et puis naturellement sur les réseaux sociaux également avec notre compte Twitter, hein. Venez nous rejoindre, hein, et puis on en discute ensemble durant toute la soirée. Les joueurs sont donc dans le tunnel, on entend l'ambiance autour de vous, Romain. C'est un match qui va forcément faire du bien parce que c'est le dernier match de l'année et on entend le speaker qui annonce
l'entrée des joueurs, voilà. Justement sur le terrain de ce stade Bollaert. Effectivement, ça va être un match important pour les deux équipes, pour le Racing Club de Lens, mais aussi pour le Paris Saint-Germain. Ça va être à nous de savoir dompter ce stade qui va être hyper en feu. Il y a une Marseillaise qui parle comme ça, juste
c'est l'ambiance
avant,
de l'entrée des
joueurs. Mais oui, il va falloir calmer ce stade de Bollaert pour véritablement réussir à se qualifier. C'est un peu ce qu'on arrive à faire sur les gros chocs de Ligue 1. C'est ce qu'on a réussi à faire à Marseille. C'est ce qu'on a réussi à faire à Monaco. C'est ce qu'on a réussi à faire à Lille également cette saison. Alors qu'actuellement, les supporters parisiens sont en train de craquer quelques fumigènes dans leur parkage. Il y en a beaucoup. C'est la dernière de l'année. Voilà. Le but, c'est de mettre le feu à ce stade. Il commence à pleuvoir du côté de Lens. Heureusement, nous, on est couverts. Mais il commence à pleuvoir. Ça va être une ambiance de feu, comme d'habitude, au stade Bollaert.
Et toute la difficulté, c'est que c'est le dernier match de l'année 2024, avant bien sûr quelques jours de repos pour tous les joueurs, mais c'est une nouvelle compétition qui commence, c'est le premier match de la Coupe de France, donc il faut entrer rapidement dans ce match et surtout ne pas se laisser déborder par les Lensois.
Et il n'y a pas d'échauffement, il n'y a pas d'échauffement pour, ce, pour cette compétition-là. Normalement, il y a toujours un petit échauffement face à un club d'une division inférieure. Cette année, ce n'est pas le cas. Alors, ça sera peut-être le cas pour les 16e de finale. Mais pour le moment, eh ben non, il va falloir être sérieux face à une équipe de Ligue 1. Il va falloir faire comme on fait en, en Ligue 1, essayer d'être le plus sérieux possible pour l'emporter. Alors qu'actuellement, les joueurs sont là en train de faire la, la petite photo. Le Paris Saint-Germain qui arborera son maillot extérieur. Alors, ce n'est pas le maillot classique puisque les sponsors ne sont pas les mêmes et il n'y a pas les numéros de, il n'y a pas les noms de joueurs derrière, au-dessus des numéros, mais c'est le maillot blanc avec cette, cette tour Eiffel bleu et rouge qui est un très très beau maillot, hein, un hommage à un maillot des années 90 pour le Paris Saint-Germain. C'est ce maillot blanc qui est arboré du côté de Lens ce soir. Lens qui jouera bien sûr dans ses couleurs originelles, les couleurs sang et or. Voilà, on nous dit, on a un petit message de la part des ultras de Lens qui sont contre leur préfet et qui dit une petite banderole qui dit pour un Havre de paix, ouvrez le parkage. Et oui, parce que tout n'a pas été ouvert, le nombre de Parisiens n'a pas été respecté et effectivement il y a une tribune qui est un peu vide en dessous du parkage parisien. Je pense que les problèmes de préfet sont un peu les mêmes un peu partout en France avec, avec les déplacements de supporters, c'est toujours un petit peu compliqué alors qu'actuellement les Parisiens et les Lensois sont ensemble et il y a une minute de silence je crois qui va être mise à l'honneur notamment pour les événements à Mayotte, le stade qui est complètement, complètement calme. Donc je vais me taire moi aussi un petit peu, Christophe, vous pouvez reprendre la parole.
On va suivre cette minute de silence qui est donc voilà, qui est donc suivie au, au stade Bollartin avant le coup d'envoi. Voilà, avant le coup d'envoi.
Une minute d'applaudissement, ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre d'avoir le stade
de
38 000 personnes qui d'un coup s'arrêtent et